Autant que ce soit dans la coloc, dans ma vie de coloc, dans ma vie d'amis ou dans ma vie de professionnelle, moi, tout ce que je leur donne, eux, ils m'en donnent autant, voire plus. Mais on a toujours besoin de l'aide de l'autre et nous, on a toujours besoin d'aider l'autre. C'est ça, je pense que ça fait partie de la relation. C'est le béaba, je pense, de la relation.
Bonjour et bienvenue à toi. Une fois par mois, je te propose de boire un verre avec une créatrice ou un créateur de liens inspirants. Je m'appelle Anne-Paul, je suis coach professionnelle, animatrice et formatrice. Je travaille pour les secteurs du social et de la solidarité sur les thématiques d'accompagnement, de connaissance de soi, d'engagement et de pouvoir d'agir. Après avoir travaillé pendant 8 ans auprès des personnes à la rue à Paris, j'ai décidé de me former pour accompagner les professionnels et les bénévoles de ces secteurs. Ces personnes donnent tout, voire plus au service des autres, et je crée des outils pour les soutenir dans leur mission. Maintenant que j'ai différemment la tête dans le guidon, je prends le temps de réfléchir à quatre sujets qui me passionnent. L'être humain, la relation et les liens, l'engagement et la solidarité. Alors j'ai décidé de partager mes découvertes avec celles et ceux qui mettent la création de liens au cœur de leur vie. On va vérifier ensemble si, comme je le sens depuis toujours, la relation est vivante. Aujourd'hui, à la carte, il y aura une histoire de vie, l'histoire d'une solitaire qui sort de sa solitude, des histoires de liens. Nous irons dans la vie à la rue, dans un centre d'hébergement d'urgence, dans une coloc de l'APA à Paris et dans un EHPAD aussi. Nous parlerons de liens, d'amitié, des niveaux de la relation, d'une coloc de filles et d'une coloc de garçons, d'inconditionnalité, de confiance, de barrières à la relation, de départ et de fête. Nous parlerons d'être aidé et d'aider, de bénévolat, de professionnel aussi, et du travail d'accompagnement. Nous buvons un verre avec Martine, une solitaire repentie et une femme résiliente grâce aux liens. Bienvenue Martine. Bonjour Martine. Je suis contente de te retrouver pour ce deuxième épisode d'Osons la relation. On boit un verre avec toi aujourd'hui et c'est une grande joie. C'est une grande joie pour moi de te retrouver parce qu'on s'est rencontrés quelques années quand moi je travaillais dans un accueil de jour et que toi tu as eu une période de ta vie dans la rue. Et là, on ne s'est pas vu depuis 2 ans et on boit un verre ensemble. Qu'est-ce que je te sers ?
Bien une tisane pêche miraculeuse s'il te plaît, merci.
Avec plaisir. Alors, ma première question pour toi aujourd'hui, Martine, c'est quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as créé du lien et qu'est-ce que tu as ressenti ?
En fait, j'en crée beaucoup en ce moment, donc... En fait, je pense qu'en ce moment, j'en crée un peu tous les jours. Parce que j'ai un travail qui fait que je vais vers les personnes âgées qui sont dépendantes, qui ont besoin de toi ou d'aide, en fait. Mais qui sont dans un EHPAD en ce moment, c'est un peu compliqué avec le Covid, la limite des visites familiales. Donc du coup, c'est toi qui... Enfin, c'est nous, soignants, qui remplaçons un peu la famille. Donc du coup, donc on sent qu'elles ont énormément besoin de toi ou de nous. Et des fois, c'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas le temps de donner autant qu'on voudrait à chacune. La relation, c'est tous les jours que je la crée.
Oui. Et toi, c'est quelque chose qui...
Moi, ça m'apporte énormément. Parce que j'ai eu une période où j'étais... Enfin, moi, je suis assez solitaire hein, de par mon caractère. Hein. Moi, j'ai vécu très longtemps toute seule pendant une bonne trentaine d'années avant de vivre en coloc. Donc ça a été un gros changement. Mais je m'aperçois que vivre avec l'autre, c'est quand même hyper important. Ça apporte une sérénité, une écoute. Si t'as un souci, t'es pas tout seul. Tu t'ouvres aux autres. C'est bien aussi, finalement.
Oui. Et la dernière fois que quelqu'un, ou la dernière fois ou une fois, importante pour toi, que quelqu'un a créé du lien avec toi. Est-ce que tu t'en souviens et...
En fait, dans les deux dernières années, là, j'ai fait des formations pour faire mon futur métier qui est accompagnant éducatif et social. Et sur les 2 ans, sur les 2 formations différentes, il y a eu, dans la première formation, il y a eu 2 personnes avec qui je m'entends très bien aujourd'hui et dont on a gardé vraiment le contact. On est vraiment, vraiment tout le temps en contact. Et sur la deuxième formation, c'est pareil. J'ai une autre amie avec qui on s'entend très bien maintenant et qu'on se voit très, très souvent. Donc, ouais, le contact, il est resté avec eux. Pourtant, c'était des personnes qui étaient supposées voir 9 mois dans ta vie. Et non, finalement, on a gardé le lien. Je l'ai vraiment gardé.
Oui, et c'est précieux.
Bah oui, c'est très précieux. Parce que tu dis que tu peux aller vers l'extérieur, tu peux faire des relations à longue durée, même si c'est pas, si c'est, on ne se voit pas pendant 3-4 mois, quand on se retrouve, et ben c'est comme si on s'était quitté la veille, quoi. Ça, c'est bien. Ouais. C'est des vraies relations.
Ouais, c'est fort. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours ?
Mon parcours ?
Ton parcours de vie.
Moi, j'ai travaillé pendant 28 ans dans une charcuterie. Et puis, je suis arrivée à une période de ma vie où j'ai un peu perdu mon logement, mon travail par la suite. Et donc, après, ça a été plutôt la galère, donc la rue, pendant quelques mois. Voire quelques années, même si je travaillais pendant 2 ans, j'arrivais à travailler malgré tout tout en étant dehors avec le système D, hein, des amis, l'hôtel, la rue. Et puis après, à un moment donné, t'arrêtes tout parce que t'en as marre, tu peux plus suivre, t'as la fatigue qui arrive et puis tu te retrouves vraiment dehors tout seul et là tu sais pas quoi faire, quoi, en fait.
Ouais.
Et puis voilà.
Ouais, et puis voilà.
Et puis ça peut arriver à n'importe qui, quoi.
Ouais.
Tu dis non, ça ne peut pas t'arriver à toi, mais si, si, ça peut arriver à tout le monde.
Ouais.
Très rapidement.
Oui, t'as rien vu venir.
Non, 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 ça a été rapide après.
Et puis une fois à la rue, t'es restée assez solitaire ou...
à la rue, je suis vraiment restée quasiment... 3-4 mois isolée de ne voir personne ou juste des gens que je croisais. Il y avait un groupe de personnes que je croisais toujours au même endroit le soir et qui me disaient non, reste pas toute seule, reste avec nous, ça sera plus prudent pour toi. Et c'était des gars qui étaient des gars en galère comme moi qui étaient dans la rue, hein, et je me sentais protégée avec eux. Et puis finalement, après, il y en a un qui m'a dit non, mais viens, il faut que tu manges, il faut que tu changes, il faut que tu te laves. Donc, du coup, c'est eux qui m'ont indiqué le ASSI, en fait, l'association des captifs, la libération. Où j'ai mis un premier pied une fois et je me suis trouvée dans un univers bizarre. pour moi, ça faisait bizarre la première fois parce que je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment ma place là? Et que c'est bizarre d'aller demander... c'est difficile d'aller demander aux gens de dire est-ce que je peux prendre une douche parce que je me sens pas propre ou laver mon linge parce qu'il est sale. Ouais, la démarche, elle est difficile. Le premier pas est difficile. Après, ça va mieux.
Ouais.
Après, ça va mieux, mais demander de l'aide, c'est pas simple.
Et après, une fois à l'ESI, t'as rencontré différentes personnes.
Oui,
tu as participé à des activités.
Voilà, il y a eu les travailleurs sociaux, dont Anne-Paul, qui m'a aidée à faire mes papiers, déjà pour la carte vitale que j'avais perdue, pour différentes démarches pour Pôle emploi aussi. J'ai fait plein d'activités avec eux. J'ai fait des sorties aussi. Le premier séjour que j'ai fait avec eux, ça a été Paray-le-Monial. 5 très beaux jours, là. C'était tu sors de Paris et tu dors dans une tente, mais au moins tu dors quelque part. Et puis après le retour de séjour de là, j'ai donc ça c'est 5 mois, j'ai des ou 4-5 mois que j'étais dans la rue. Le ASSI m'ont trouvé un centre d'hébergement. Voilà, un accueil pour personnes à la rue. Alors c'est sûr, vous partagez une chambre à 5, hein, mais c'est toujours mieux que de dormir dehors, du moins quand on est une femme. Et un peu plus de sécurité. Voilà, c'est ça.
Et là, tu partageais ta chambre et avec des
Avec
personnes.
quatre autres personnes toutes africaines, dont deux n'avaient pas de papier. Deux en avaient. Et puis là, pendant 3 mois où je suis restée avec eux, pour les deux plus jeunes qui voulaient avancer pour leurs papiers, en fait, il fallait aussi qu'elles prennent les cours de français parce qu'elles parlaient le français, mais elles avaient du mal à le lire, à l'écrire. Et ce que j'ai fait pendant 3 mois, c'est que je leur ai appris, ou je leur ai donné des leçons pour apprendre à écrire et à lire.
Ah ouais, super.
Surtout la lecture.
Ah
Et
oui.
ça a bien marché.
Ah oui.
Parce qu'il y en a une, elle s'en sortait très très bien après, à
Ah
la
oui, c'est
fin.
incroyable. Tu avais vraiment cette disponibilité.
Ah bah oui, on avait juste que ça à faire. Et
Ah oui.
c'était bien.
Ouais.
Mais oui, on prenait le temps, hein. On faisait ça 2, 3 heures par jour, mais c'était sympa. Et ça crée du lien après.
Ah oui.
Moi-même, aujourd'hui, j'ai un peu perdu de vue. Je les ai vus pendant un an. Après, je sais pas, moi j'ai perdu mon portable, donc j'ai perdu les numéros et j'ai pas osé repartir les voir. Je sais qu'il y en a une des femmes qui était à Baudricourt avec moi, mais que je voyais moins parce que c'était pas elle qui était dans ma chambre, mais plutôt à côté. Les circonstances de la vie ont fait qu'on a fait une formation ensemble.
Ah oui,
Voilà,
super.
et je sais qu'aujourd'hui elle est aide-soignante. Elle n'a pas fait le même parcours, mais elle est aide-soignante. Et qu'elle a quitté Bondicourt pour avoir son propre appartement. Et de temps en temps, j'ai de ses nouvelles. C'est pas voilà, c'est pas une relation suivie, mais voilà, tous les 2, 3 mois, on s'envoie un petit message pour voir comment ça va.
Vous avez des connexions, quoi.
Oui, on est restés connectés, on va dire.
Ouais, c'est
Oui,
ça.
tout à fait. Oui, si, c'est. Ouais, j'ai toujours de ses nouvelles.
Oui, puis vous avez des similarités dans votre
Parcours.
parcours
Oui, c'est
d'histoire,
ça.
donc
Oui, ouais.
ça crée
Ça crée une histoire, un
une
lien.
histoire commune, ouais, bien sûr. T'as vécu à Baudricourt et puis un jour, tu as eu une proposition pour venir
En fait,
ici.
après, pendant le séjour à Paray-le-Monial, où j'étais avec une autre travailleuse sociale de l'ESI, Armelle, elle avait rencontré un gars qui fait partie de l'APA, l'Association pour l'Amitié, qui, eux, proposent des hébergements solidaires entre les jeunes travailleurs et des personnes qui sont en galère et qui sortent de la rue. Et donc, du coup, j'ai rencontré Thibault, où il m'a énormément parlé de ce que pouvait être l'APA, de ce que ça pouvait m'apporter, ou moi, je pouvais leur apporter. J'ai beaucoup écouté son histoire, enfin, tout ce qu'il avait à dire. Moi, je lui ai raconté la mienne. Je crois que c'est l'une des rares personnes à qui j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire, mais vraiment, et spontanément, sans que je le connaisse lui en plus. Et puis donc, du coup, chemin faisant, on a réfléchi. Mais Baudricourt est arrivé. Et puis septembre, parce que voilà, et Armelle m'a dit, bon, on fait quoi pour l'APA? Et j'ai dit, ben, on tente le coup. La réticence, c'était parce qu'on m'avait dit que c'était assez long pour avoir une place. Donc j'avais le temps de réfléchir. Moi, ce qui me faisait peut-être un peu peur à la base, c'est de vivre en coloc avec 7-8 personnes que tu connais pas, en te disant, mais moi j'ai vécu 30 ans toute seule, j'ai fait peut-être 2-3 ans de galère dans la rue, est-ce que je suis prête à m'ouvrir aux autres? Et puis, bon, comme je voyais que ça se passait pas trop mal à Baudricourt, je me dis, bah, pourquoi pas si tu vas dans une maison avec ta propre chambre, tu peux toujours claquer la porte et t'isoler un peu. Et donc, du coup, c'est arrivé assez vite en fait. On a fait le dossier en septembre et fin septembre, j'ai rencontré ma première responsable de coloc, on va dire, qui me disait, ça c'est ta chambre. Et j'y ai pas cru au début. J'ai dit, ah bon, c'est sûr? Du coup, j'ai mis un mois avant d'arriver parce que je fallais réfléchir.
C'était trop.
C'était trop. Pour moi, c'était tellement trop rapide que je me disais, mais non, c'est pas possible que ça m'arrive aussi vite. Et voilà, et puis ça c'est reparti pour une autre aventure et d'autres relations. Parce que là, pour le coup, tu fais des relations encore plus importantes, c'est vraiment une relation de famille, c'est pas que des amis en fait. c'est plus que des amis après, parce que tu vis au quotidien avec des gens et puis tu as d'autres galères, tu as d'autres gens qui sont en galère. Donc tu t'aperçois que tu n'es pas la seule. Mais les liens, ils sont spontanés, très rapides et c'est gratuit, quoi. En fait, ils te donnent sans que tu leur donnes quelque chose, quoi. Et ils ne te posent pas de questions. Moi, au début, ils ne m'ont pas posé de questions. Voilà, ils m'ont accueillie telle que je suis arrivée. Et puis, voilà, c'est tout. Après, c'est à moi de m'ouvrir et elle qui s'ouvrait. Et au fil du mois et des années, on garde ce lien. Même si certaines sont parties maintenant pour voler de leurs propres ailes, ben voilà, on se voit souvent encore. On s'appelle régulièrement.
Tu veux dire des personnes qui ont vécu des galères qui ont quitté, et tu parles aussi de
des jeunes sont partis vers leur propre vie.
Ouais.
Comme l'une, ben, il y en a deux qui sont partis dans leur propre appartement. Une autre s'est mariée entre-temps et elle a un petit un enfant maintenant. Mais bon, elle n'est plus sur Paris, mais du coup, on s'appelle souvent, on s'envoie des messages. Et non, le lien, il est gardé. Enfin, on a gardé ce lien et je pense qu'on ne le perd pas. Même malgré les distances, ce qu'on vit pendant quelques temps, on le vit vraiment et ça nous marque vraiment. C'est les gens qui nous aident à avancer aussi.
Oui.
De toute façon.
Oui.
Voilà. On grandit.
Oui. Ensemble, j'ai l'impression.
Oui, on grandit ensemble. On se reconstruit ensemble.
Oui.
Voilà.
Oui. Et pour toi, c'était important qu'on te pose pas de questions ? Tu as dit tout à l'heure, on m'a pas beaucoup posé de questions.
Ouais, parce que en fait, j'en avais. Voilà, le plus gros, c'est qu'ils savent. Il y a le plus gros qui savent. Ils savent dès le départ que c'est une personne qui sort de la rue ou que tu étais en centre d'accueil de jour, enfin, dans un hébergement d'urgence. Ils savent qu'à la limite, tu n'as pas d'argent ou que tu es. Voilà, tu es en cours de faire tes. Mais ils ne te demandent pas ce qui s'est passé. Voilà. Après ça, tu peux le raconter à l'association. Même pas, moi, les entretiens que j'ai eus m'ont même pas posé ces questions-là. Je pense qu'ils avaient le gros de l'histoire parce que voilà, s'ils leur avaient dit le gros de l'histoire. Après, si moi je veux rentrer dans l'histoire plus intime de ma vie, c'est moi qui le décide. Après, ils peuvent te poser la question. Après, les travailleurs sociaux de l'APA, oui, eux, ils vont chercher des réponses. Voilà, ils ont besoin peut-être d'un peu plus de questions, mais on sait que ça reste dans le bureau et que tu peux dire ce que tu veux, ça ne se sortira pas. Et c'est ce que j'ai appris à faire, parce que tu n'es pas sûr quand tu racontes une histoire qu'elle ne va pas sortir ailleurs. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris avec le ASSI, où je me dis, je peux leur faire confiance. Que ce que je dirai là, ça restera là et pas trop. Et j'ai continué avec l'APA. Voilà, mais maintenant, oui, après moi, je dis un peu plus spontanément ce qui m'est arrivé, peut-être parce que j'ai du recul aujourd'hui, que je sais que bah, c'est pas une honte finalement. Moi, je l'ai vécu comme ça au début, mais maintenant, je pense que ça m'a donné un coup de pied aux fesses, on va dire, et que ça m'a permis aussi d'aller vers les autres, ce que je faisais pas, même si spontanément je suis très sociable, je vais aider les gens. Mais c'est pas parce que je vais aider les gens que j'ai envie que eux ils viennent vers moi après.
Ouais, c'est
voilà.
Ça.
Je mets des fois des barrières. Et même si j'en mets encore un peu, j'en mets beaucoup moins. Beaucoup moins.
Et ces barrières, tu les mets pour te protéger.
Ouais, je me protège parce que malgré tout, des fois je me dis la vie à la passe, c'est énormément de monde et c'est pas que 8 personnes. C'est les gars d'à côté, c'est les séjours, c'est les vacances. Des fois, t'es 60, c'est super sympa tout ça. Mais moi, des fois, je me dis trop de monde, c'est trop. mais tu dis aussi que c'est sympa parce que voilà, tu connais beaucoup plus de monde, tu t'ouvres aux autres. Répéter, mais pour le coup, en fait, c'est important de ne pas être seul. Tu t'aperçois que finalement, t'as besoin des autres. Même si toi tu dis dans ta tête mais non c'est pas vrai, voilà, des fois t'as une période où t'as besoin d'être un peu tranquille, mais t'as aussi une besoin d'aller voir les autres et tout, de sortir, de faire des vacances avec d'autres, pas forcément qu'avec tes colocs, avec mes amis maintenant que j'ai fait, que j'ai eu à l'EACI ou que j'ai fait en formation, voilà, c'est important.
vu là sur les murs de la colocation qu'il y a des photos de mariage. Il y a des photos de repas, il y a des photos.
Il y a eu. Moi, depuis que je suis arrivée, il y a eu deux mariages, dont une ancienne coloc d'ici que je n'ai pas connue et qui s'est mariée dans le sud-ouest. Donc, on y est parti. Et après, l'année d'après, il y a eu Marine, qui, avec qui j'ai vécu en coloc pendant un an et demi, et qui, elle, s'est mariée à Aix-en-Provence. Alors, l'avantage des mariages, c'est qu'ils nous font visiter aussi la France. Enfin,
super.
Voilà. Et puis, mais voilà, j'ai une autre de mes colocs qui va partir parce qu'elle se marie au mois de juillet.
Ouais, voilà. Super. Et ces départs, alors, comment vous les vivez, vous les préparez? Ça ne doit pas être si simple.
Bah, quand tu sais que c'est parce que c'est un mariage, tu le sais depuis très longtemps. Donc, je crois que tu t'y prépares. Les filles qui te disent un jour, bon, écoutez, les filles, je m'en vais parce que, voilà, ma vie, elle m'appelle ailleurs. Ben pour moi qui avait beaucoup de mal à me faire des relations, la première fois qu'une de mes colocs m'a dit je m'en vais, l'une parce qu'elle se fiançait donc ça va, voilà, elle se fiançait donc ça m'a pas posé. Mais les deux, après les autres, quand elles me disent nous on part, ouais, ça fait un pansement au cœur et tu dis tu t'es fait plein de relations, tu as fait tous les efforts du monde. Et là, tu pars, mais c'est difficile de te dire. Et puis, t'en as d'autres qui arrivent. Alors, la relation, elle est spontanée avec les nouvelles. Mais je me dis, est-ce que je mets la barrière? Parce qu'après, ça fait mal. Un petit peu, même si tu les perds pas vraiment. Mais ouais, tu t'aperçois qu'après, ça fait... Enfin, il y a un pincement au cœur, quand même. Franchement, des fois, ça... moi, ça me fait ça.
Bien sûr.
Je sais pas trop pour tout le monde, mais moi qui ai du mal déjà à créer la relation à l'autre, quand tu la coupes, ça fait un peu bizarre.
Ouais. Et vous avez un peu des rituels pour ça, un dîner, le dernier dîner, une fête.
Ouais, on fait une fête.
Ouais, d'accord.
Quand il y a le pot de départ, quand il y en a une qui s'en va, ou même quand c'est un gars d'à côté, on fait une fête. On se réunit et on fait une petite fête, ouais, et puis on fait petit cadeau. On fait le petit lapsus là avec la petite chanson, le petit discours. Et puis ben voilà. Non, on part pas. Enfin, on part pas sans faire une fête. Puis on aide au déménagement aussi.
Ah oui, ouais. Ouais, c'est sympa ça. Une vraie solidarité, quoi.
C'est la personne, la moyen de dire ok, je t'accompagne vers ta nouvelle vie ou ton chemin, quoi. C'est important.
Vous avez une soirée obligatoire par semaine?
Ensemble.
Ensemble.
C'est ça. Et chacune prépare le repas à son tour. Et pendant les confinements, enfin, du moins, au moins le premier confinement, comme on mangeait tout le temps ensemble le midi et le soir, eh bien, il fallait bien démarquer un peu cette soirée particulière. Donc, nous, les filles, on avait décidé qu'on faisait une soirée à thème. Alors, c'était ou un repas italien, ou on se déguisait. On a fait la période hippie, là, avec que des vêtements fleuris. À Fiesta, rouge et blanc, italien, on a fait, je sais plus, américain, voilà. Mais on faisait des soirées à thème. C'était, voilà, c'était notre période. Et puis là, on mangeait juste les filles. Hein. On n'allait pas avec les garçons, on faisait que les filles ensemble. Parce que finalement, c'était vraiment notre repas de coloc. Donc, c'était important de se retrouver que pour nous. Et voilà, il fallait avoir de l'imagination.
Ouais, c'est clair. et créer de la vie.
Oui, il fallait quand même continuer ce lien, même si on se voyait tout le temps. Mais trouver un moyen que ce repas-là... Ben, il reste particulier à la semaine, comme c'était le cas avant.
Et toi, parfois, t'imagines que tu vas partir d'ici?
Pour l'instant, dans l'un de mes projets de ma tête, c'est pas de partir de là-bas, mais c'est de partir sûrement vivre dans un studio, ne plus être en coloc. J'ai envie de retenter plutôt d'être plutôt un studio toute seule, un peu plus indépendante. Mais tout en restant au sein de l'association pour ne pas me retrouver non plus isolée, au moins pendant 2-3 ans encore. Après, voilà, prendre mon envol tout seul. Mais je pense que j'ai encore besoin de cette structure, de tous ces gens autour de moi, en me disant, voilà, je suis toute seule dans mon studio, mais à côté, il y a encore du monde. Je crois que je suis dans cette période où j'ai besoin de ça. Peut-être un peu plus de sortir de la coloc. Mais pas vraiment de l'association. Pas de sortir du monde qu'il y a autour.
Je me me souviens aussi quand tu étais à l'ESI que tu as participé à un groupe de théâtre avec Bénédicte.
Ouais, j'ai fait le théâtre avec Bénédicte pendant un an. J'ai refait une année avec l'APA, toujours en impro, et ça m'a. En fait, ça m'a énormément aidé pour le lâcher prise, pour mettre des mots sur ce qui m'arrivait, pour le prendre plus en dérision et moins au sérieux, et pour te dire. Et pour la prise de parole, j'étais quelqu'un de timide qui ne parlait pas, qui n'osait pas parler de ses problèmes et qui n'osait pas non plus dire aux autres, voilà, tu m'embêtes, j'ai pas envie de te parler aujourd'hui, lâche-moi. Maintenant, je le fais plus facilement parce que je sais que ça va pas forcément vexer la personne qui est en face. Alors qu'avant, moi, j'avais peur de blesser. Maintenant, même si je mets plus de gants, on va dire, pour le faire, mais j'ose plus le faire. On m'a toujours dit que ça faisait aussi partie des relations et qu'il ne fallait pas garder pour soi ce qui n'allait pas. Oui. Le théâtre, ça m'a beaucoup aidé pour ça. Ça m'a permis de parler, de prendre la parole plus facilement.
Et ça t'a aidé à être en conflit aussi, alors ?
De comprendre que tu ne peux pas... Oser ne pas être d'accord avec les autres, ça c'est... parce que... Moi, je ne donne pas forcément mon opinion s'il n'est pas le même que les autres parce que j'ai peur d'être celle qui dit le contraire de tout. Maintenant, je sais que j'ai le droit de dire que moi, je ne suis pas d'accord avec cette opinion-là, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire et que ça ne va pas être reproché, que ça va être plutôt pris en considération et qu'on va trouver une solution pour que, finalement, tout le monde soit d'accord après ou qu'on trouve quelque chose qui arrondisse les angles. J'ai appris à faire ça avec le théâtre, je pense.
Et ça doit être utile, du coup, en coloc.
Oui, parce que pour la coloc, il faut aussi savoir faire des concessions et de tous les côtés, quoi.
Savoir faire des concessions, dire tes limites.
Ouais, et voir les limites de l'autre.
Et accepter les limites de l'autre,
Ouais, ça, c'est important. Parce que sinon, la coloc, c'est compliqué. C'est pas toujours facile, hein. C'est comme une vie de famille, hein. Dans les familles, il y a des conflits. Dans la coloc, de temps en temps, on peut pas être d'accord tout le temps, 24 heures sur 24, avec la personne qui est à côté de toi.
Non.
Ouais.
Ouais, c'est sûr. Oui. Et aujourd'hui, donc tu as fait ta formation, tu es accompagnant éducatif et social. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire à aller sur ce métier ?
Parce que c'est ce que je voulais faire quand j'avais déjà 10 ou 12 ans et que j'ai pas pu faire parce que financièrement on n'avait pas les moyens de me payer l'école. Et donc du coup, j'ai dû aller travailler très rapidement, et donc j'ai pris la vente parce que c'est là où il y avait du débouché et pour l'époque. Et puis quand j'ai eu mes galères et que j'ai rencontré monsieur qui s'occupe de l'emploi des personnes et de l'insertion, quand on a fait le bilan de compétences, l'aide sociale sortait beaucoup, ou ce genre de choses-là. Et moi j'avais dit que j'avais envie de travailler à aider les gens. Parce qu'il faut déjà savoir que moi, j'ai une coloc qui est handicapée. Donc, quotidiennement, je voyais son aide-ménagère venir lui préparer ses repas, lui faire la cuisine. Et j'étais en train de me dire, mais moi, j'ai envie de faire la même chose, en fait. Et donc, du coup, on a trouvé la formation d'aide-soignante. Mais il fallait préparer le concours. J'ai pas vraiment été assez prête, donc j'ai raté un peu le concours. Et comme je ne voulais pas attendre une année de plus pour repasser le concours, on m'a proposé la formation d'accompagnant éducatif social, qui est un peu la même chose qu'aide-soignante, sauf qu'il y a un peu d'éducation, il y a un peu d'animation, d'activité supplémentaire dans ce parcours-là. Et voilà. Et donc, du coup, je suis repartie pour 9 mois. J'ai fait un stage avec les personnes adultes handicapées. Ça m'a énormément plu et beaucoup apporté. Et puis après, je suis partie en stage dans un EHPAD, ce que j'avais déjà fait l'année d'avant, mais pas le même. Et à l'issue de mon deuxième stage, ça faisait 3 mois que j'avais fait un stage chez eux, ils m'ont embauchée, ils m'ont proposé une place directe, sans que j'ai fini ma formation. Donc j'ai dit ok, je suis partie pour signer direct, et j'ai eu ma formation, en fait, j'ai eu mon diplôme entre-temps. Et donc du coup, je travaillais avec les personnes âgées, autant pour le soin, parce que c'est nécessaire forcément dans le soin. Moi, ce que, mais ce que j'aime le plus dans ce, dans cette relation avec la personne âgée aujourd'hui, c'est plutôt l'activité que tu fais l'après-midi avec eux ou la, en fin de matinée. Parce que tu t'aperçois que, en plus en ce moment, avec la période Covid, c'est très compliqué pour eux d'avoir des relations familiales suivies, si ce n'est qu'une heure ou deux heures par semaine. Et donc, c'est nous qui prenons en charge un peu la façon de les distraire, de les occuper, de s'apercevoir que, ben, ils sont encore utiles à quelque chose, qu'ils ne sont pas juste là posés sur une chaise toute la journée. Et donc, on fait des activités plus ou moins manuelles, intellectuelles, avec leur niveau qu'ils arrivent à comprendre, parce que moi, j'ai des personnes Alzheimer plus. Mais quand t'arrives, ben, c'est bien. Et la relation, elle est importante avec eux. Et aujourd'hui, je sais que ben, ça se passe bien. Moi, avec eux, j'ai pas de soucis. Je suis pas tellement en conflit avec eux. Donc, tout se passe bien. Après, quand tu les as détendus dans la journée, que tu t'es occupé d'eux, individuellement ou en groupe, hein, ben, après, la relation, le soir, c'est plus simple. Voilà. Le repas, ça se passe bien. Le coucher, ça se passe bien. Et tu vois que des fois, ben, quand tu ne l'as pas trop fait la journée, parce que tu as été un peu plus bousculé par autre chose, et ben, des fois, c'est un peu plus tendu. Donc, tu t'aperçois que c'est important de créer le lien avec eux, autre que parce que tu es la soignante, que le matin, il faut que tu l'habilles, que tu la déshabilles, que tu la laves. Et que discuter avec eux, même s'ils n'ont pas une conversation suivie, c'est important. Même si, voilà, ils te disent un truc qui leur passe par la tête et que tu n'as pas compris, ben, tu fais oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et ça suffit, hein, ça leur suffit. Mais ouais, ça, c'est le côté qui, du métier qui me plaît énormément. Ce rapport-là avec la personne.
Et comment tu fais pour être en lien tu fais appel à quoi à l'intérieur de toi pour être en lien au-delà des fonctions? Ce que tu dois faire, tu vois ce que tu comprends?
Je sais pas, mais a priori, on m'a dit que j'avais. Ils disent que j'ai un don pour ça parce que c'est pas donné à tout le monde. Moi, il suffit juste que je les prenne par la main ou que je leur fasse un gros sourire. Bon, maintenant avec le masque, c'est plus compliqué, mais pour le coup, avec les yeux ou rien que par le regard et par le toucher, ça suffit. Après, il faut juste leur parler. Ils sont peut-être dans leur monde, mais les paroles, ils les comprennent pas forcément, mais ils comprennent que tu leur parles. De t'entendre, même s'ils comprennent pas toujours, au moins ils savent que tu es à côté d'eux, et ne serait-ce que d'être à côté d'eux, de leur mettre de la musique, mais de pas les laisser seuls. Du moment que tu es avec eux, et ben, eux, ils se sentent déjà accompagnés. Ça, même pour eux, ça suffit des fois. Juste d'être à côté, ça peut leur suffire.
Est-ce que tu as l'impression que toi, d'avoir été accompagné en proximité à certains moments de ton parcours, ça t'aide à...
Oui, je pense que ça m'a aidé.
À être auprès
aujourd'hui, je donne peut-être ce qu'on m'a donné. Faut que je rends ce qu'on m'a donné. Même si je donne peut-être à des personnes plus dépendantes, on va dire. Mais je pense que le fait d'avoir été aidée fait que maintenant, je suis capable d'aider. Je comprends le besoin d'aide. Je pense que ça, je le comprends maintenant. Là, je ne me pose pas de questions. Je le fais.
Oui. Il y a une jolie phrase d'une chercheuse qui s'appelle Brené Brown qui dit « On a divisé le monde en deux camps, ceux qui donnent de l'aide et ceux qui ont besoin d'aide. En réalité, nous sommes dans les deux camps. »
Oui.
Qu'est-ce que ça te dit, toi?
Ah ben, c'est dans les deux sens, parce que moi, autant que ce soit dans la coloc, dans ma vie de coloc, dans ma vie d'amie ou dans ma vie de professionnelle, moi, tout ce que je leur donne, eux, ils m'en donnent autant, voire plus. Mais on a toujours besoin de l'aide de l'autre et nous, on a toujours besoin d'aider l'autre. Je pense que ça fait partie de la relation. C'est le béaba, je pense, de la relation.
Dans ton chemin de vie, notamment dans les dernières années, tu as rencontré des bénévoles et des professionnels. Et qu'est-ce que ces relations-là, qui sont un peu particulières, finalement, t'ont apporté?
quand tu es un pro, en fait, c'est un peu ton boulot, donc tu dis, bah, c'est normal, il fait son boulot. Pour les bénévoles, je trouve que c'est quand même quelque chose d'une. C'est une démarche qui est. De se dire, on ose faire quelque chose qui n'est pas de notre ressort ou de notre profession. Moi, ce qui m'a permis de voir avec les captifs ou à l'EAC, c'est qu'il y avait des pros et il y avait aussi les bénévoles. Et moi, ça m'a permis aussi de devenir bénévole hein, à mon tour. Parce que c'est une façon de donner gratuitement aux autres ce qu'on nous a déjà donné. Ce qui fait que moi, ben, pendant plus d'un an et demi, avec l'APA, tous les dimanches, il y a des repas solidaires pour les personnes de la rue. Et ben, pendant un an et demi, quasiment tous les dimanches, j'allais faire du repas pour 50 personnes. Aujourd'hui, mon travail fait que c'est plus difficile. Mais ouais, c'est important. Enfin, après, le bénévolat... Après, c'est vrai que quand tu es un pro, ben, voilà, tu dis « c'est mon métier ». Mais des fois, ils font plus que leur métier. Et puis, pour le bénévole, ben, c'est une démarche parce que tu veux le faire, quoi. Tu donnes quelque chose. Enfin, tu te donnes toi et tu donnes ton temps à quelqu'un d'autre. Mais ça apporte.
Et là, toi, tout à l'heure, tu disais que tu faisais plus que ton métier en étant...
Ouais.
En créant le lien un peu plus fort.
Ah oui, moi je fais plus que ce que je devrais faire, de toute façon. Ça, c'est sûr. Mais c'est ma façon de faire mon métier. Hein. C'est ma façon d'être.
Et quand tu... Et si aujourd'hui, là, tu es plus en sécurité, tu as un travail plus en sécurité dans... affectivement aussi, j'ai l'impression, c'est vraiment ce que tu racontes. Quel regard tu poses sur ces dernières années de où tu as traversé des moments vraiment difficiles, où tu t'es éloigné de tout aussi, et où tu es revenu dans le monde.
Bah, quand tu tombes dans la galère, t'as une impression de honte, de rater ta vie, d'avoir rien fait de bien. Aujourd'hui, 3 ans après, je m'aperçois que je reviens assez loin, hein, parce que je suis sortie du ruisseau, on va dire. Voilà, je me suis fait plein d'amis. J'ai changé de boulot et je suis repartie sur autre chose. Je n'ai pas choisi un boulot facile. Hein. Il ne faut pas se casser la vie non plus. Physiquement, ce n'est pas tout simple non plus. Pas du moins à mon âge. Mais je ne regrette pas une seconde. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je ne suis plus posée. Je pense que je suis... je pense qu'il y a 10 ans, je n'aurais peut-être pas fait ça. J'aurais pas osé faire ça.
Ce métier, tu veux dire ? Non.
Bah, en fait, si j'avais pas eu ces galères-là, j'aurais jamais fait ce boulot-là parce que je serais restée dans la vente. Même si c'est un métier qui me passionnait aussi. Moi, je suis quelqu'un qui, hein, je fais quelque chose, je le fais à fond et je me pose plus de questions. Mais je pense que les galères ont fait que j'ai changé. Peut-être dans mon caractère aussi. Hein. Je suis un peu plus fonceuse, j'ose peut-être plus. Et j'ose dire non, ce que je faisais peut-être pas avant. Mais ça aide aujourd'hui. Mais je regrette pas. En fait, les galères, ça a été une force aujourd'hui. Je pense que c'est une force aujourd'hui. Voilà.
Et j'ai une dernière question. C'est quoi pour toi oser la relation ?
Oser la relation ? Bah, c'est oser aller vers les autres, quels qu'ils soient, et maintenir le lien, parce que c'est important en fait. Parce que des fois, c'est sympa de se faire plein d'amis, mais tu les appelles pas. Je ne sais pas trop l'expliquer, en fait. Mais avant, c'est un peu ce que je faisais. Enfin, je pouvais avoir plein de numéros de téléphone, mais j'attendais qu'eux, ils m'appellent et moi, je n'appelais pas. Aujourd'hui, je prends les devants. Maintenant, moi, j'ose appeler pour prendre des nouvelles, prendre des rendez-vous, qu'on se voie ou pas, si c'est possible. Et puis, ouais, oser la relation, c'est aussi lui dire, bah non, aujourd'hui, je ne suis pas dispo, ou là, aujourd'hui, tu vas trop loin. C'est oser dire à l'autre... ce qu'on est, quoi, ou ce qu'on pense sur le moment, et d'être vrai, d'être juste vrai, quoi.
Super, merci. Top du top. Merci beaucoup, Martine.
De rien.
Si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à rebondir et à m'envoyer un petit message. Je suis intéressée de savoir ce qui t'a parlé et interpellé. Tu peux m'écrire à annepaul@osonslarelation.com. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Si tu veux en savoir plus sur Osons la Relation, tu peux t'inscrire sur le site www.osonslarelation.com. Tu recevras 2 fois par mois une invitation à faire une pause et à t'inspirer. Enfin, partage à qui tu le souhaites ce podcast. Comme tu le sais si bien, plus on est de fous, plus on rit. Et plus on est de créateurs, plus il y a de liens. En attendant de boire un nouveau verre ensemble avec un nouveau créateur de liens, je te donne rendez-vous le 5 dans ta boîte mail pour faire une pause café et découvrir une nouvelle inspiration. Avant de te quitter, je voudrais faire une dédicace. Si tu as écouté le premier podcast, tu as remarqué que la musique a changé. C'est celle-ci qui va nous accompagner désormais. Elle a été écrite et interprétée par Sylvain, un bon ami. Elle s'appelle Snow parce qu'elle a été composée et travaillée sous la neige. Personnellement, je la kiffe. Parce qu'elle est douce, joyeuse et dynamique. Et qu'elle va nous accompagner pour au moins les 50 prochaines années. Allez, je vous la remets, juste pour le plaisir. À très bientôt.